Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, chers auditeurs et auditrices de Radio Grand Ciel. C'est Christophe Jubien qui est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Libre Propos, vous le savez, je suppose, c'est l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, merci de m'accueillir ainsi, à chaque fois, chaque semaine.
C'est une joie. Aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer, on va commencer par un sujet qui est quand même... assez terrifiant, c'est la violence des jeunes. Alors, au vu de l'actualité ces derniers temps, c'est pas nouveau, bien sûr, mais par exemple, le meurtre de la jeune Alisha, battue et jetée à l'eau par deux adolescents, pose question, bien évidemment. On se demande ce qu'il faut comprendre là-dedans.
D'abord, c'est un drame, parce que cette jeune fille qui a été tuée ne méritait pas de mourir, et que... On souhaite tellement autre chose pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'on leur souhaite tellement de vivre, d'avoir un avenir, d'avoir un cadre familial qui les aide, qui les aime, d'avoir un projet d'études en vue d'un projet professionnel. Ce qui est inquiétant, c'est que ben voilà, c'est plus la guerre des boutons, quoi. C'est-à-dire que ça a pris des formes extrêmes, qui interrogent aussi sur la capacité qu'ont ces jeunes qui commettent ces actes à analyser ce qu'ils font, à ressentir de la compassion ou au contraire une sorte de contrition par rapport à un acte si violent. On a le sentiment que peut-être que... Est-ce que ça serait l'influence des réseaux, des vidéos qui sont souvent très violentes, qui fait qu'on a comme un peu comme débranché un peu le capteur sensibilité et qu'on se permet des actes fous, je ne sais pas très bien analyser. C'était pas un problème de gang. Les gangs, on sait que les gangs de jeunes là, qui veulent dominer un quartier, du coup, il y a la question de l'honneur. Donc, dès qu'on est agressé, il faut répondre par la violence pour reprendre sa place et montrer qu'on est un chef.
C'est un peu la guerre, ça.
Ça, c'est un peu la guerre, oui, c'est un peu la guerre. Là, c'était plutôt un problème de cœur, je crois, enfin, de copains-copines, et puis ça dégénérait jusqu'à la mort d'une jeune femme. C'est à la fois intolérable, incompréhensible. Et ça pose question aussi sur la capacité de la société et de tout le projet éducatif que nous portons à accompagner des jeunes vers une vie où, au fond, d'une part, on apprendra à nouveau peut-être « tu ne tueras point », parce que c'est vrai que les commandements de Dieu... Comme on ne les enseigne pas dans les écoles publiques parce qu'on ne veut pas parler de Dieu, du coup, est-ce qu'on entend encore cette parole ? Tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui, tu ne voleras pas, mais tu ne tueras point.
Ce sont des choses qui étaient admises, enfin, je veux dire, qui étaient intégrées autrefois. Enfin, quand je dis autrefois, il y a 40 ans.
Je pense que les commandements de Dieu étaient intégrés. Après ça, il y avait des crimes quand même.
Oui,
mais
bien,
là,
bien évidemment.
Là, ça nous échappe. Et puis c'est si jeune. C'est-à-dire que c'était plutôt des crimes avant, me semble-t-il, d'adultes. Là, c'est des violences entre des jeunes qui sont à peine adolescents, qui sont pré-adolescents. Donc, on peut accabler les parents. Les parents font ce qu'ils peuvent, ça leur échappe. Souvent, je crois que les causes sont... J'écoutais quelqu'un qui disait, bien, on peut accuser les parents, mais ce n'est pas vrai, au sens que beaucoup de parents ont des enfants qui vont bien... Même si la vie est compliquée pour eux, il y a des familles monoparentales où, c'est vrai, la maman souvent a du mal à avoir autorité sur un adolescent, mais d'autres familles où ça se passe bien. Les réseaux, forcément, ils véhiculent des violences, des paroles très dures, mais tous les jeunes qui sont sur les réseaux ne sont pas pour autant violents. Donc, où est la cause profonde pour essayer de la déraciner?
C'est un faisceau de cause, finalement, c'est ça, sans doute.
En tout cas, comme j'aime à le dire, c'est un peu mon idée fixe, mais je pense que les acteurs du monde éducatif, donc le monde politique, pas seulement l'État, le gouvernement, mais je pense que la politique locale, les gens qui sont en prise avec la population et qui voient ce qui se passe au niveau social, les associations, les religieux, je pense que les religions... connaissent beaucoup de jeunes et de familles, quelle que soit la conviction qu'on porte. Les clubs de sport aussi, qui sont des acteurs de la jeunesse. Je pense que c'est tous ces gens-là qui doivent travailler ensemble, cheminer ensemble. Je pense que si on exclut quiconque, on perd une richesse qui peut être sur le chemin d'un meilleur avenir pour la jeunesse, cette richesse perdue, bien, quelque part, dégradera la capacité à donner un avenir à des jeunes qui en ont besoin. Ils veulent vivre, je pense, qu'ils veulent aimer, être aimés et bâtir un projet. Mais on leur a coupé souvent les ailes. On leur montre une société qui leur paraît, alors c'est eux qui le diraient peut-être, pourrie, où les politiques ne sont pas dignes de confiance, alors que beaucoup le sont quand même, je pense. Donc c'est ça. Enfin, en tout cas, l'Église catholique en Eure-et-Loire est prête à mettre ses forces limitées, mais dans un dialogue pour cela.
Oui. Dans l'histoire d'Alicia, c'est aussi l'histoire du harcèlement, puisqu'il semblerait qu'elle était harcelée par les deux autres. Les faits allaient être, d'ailleurs, je crois, dénoncés par la directrice de l'école. Puis finalement, eh bien, le temps a manqué, finalement. Mais ces histoires de harcèlement aussi, c'est récurrent et un peu partout.
C'est récurrent. Et puis j'imagine que pour un enfant qui est petit, parfois ça peut être des primaires, être harcelé, être moqué, être parfois frappé, doit être cause d'une souffrance physique, certes, mais morale, incroyable. Un enfant qui ne veut plus aller en classe parce qu'il a peur. Moi, j'allais en classe, j'étais content d'aller en classe. J'avais mes godillots, on avait des classes sympathiques, on faisait du sport. On avait des profs durs, hein. Parfois, ils nous tiraient l'oreille, là, hein, physiquement. Même des coups de règle sur les doigts, maintenant, ça sera interdit. Mais on était heureux d'aller en classe. Je me dis, un enfant qui est harcelé, qui a une peur incroyable de fréquenter son établissement scolaire, quelle tristesse pour lui.
Enfin, c'est au monde des adultes d'essayer quand même de résoudre le problème. Petit retour sur votre message fraternel du 5 mars avec la parabole du fils prodigue. Moi, c'est une de mes préférées, la parabole du fils prodigue, parce qu'elle évoque évidemment la nécessité du pardon, du retour sur soi aussi.
Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est une parabole qu'on appelle parabole de la miséricorde dans Luc au chapitre 15. C'est assurément un très beau texte parce qu'il raconte, donc en quelques mots, je peux le redire pour ceux qui nous écoutent. Un homme avait deux fils, donc et le plus jeune réclame l'héritage pour partir faire la fête, quoi, pour partir vivre sa vie. Donc il part avec sa part d'héritage. Bien sûr, il dépense tout en jouant avec des femmes aussi, et puis il se retrouve ruiné dans un pays où il y a une grande famine, donc il finit par trouver comme seul travail de garder des cochons. Il serait prêt à se contenter de la nourriture des cochons, mais on ne lui en donne pas, donc il dit, au fond, chez mon père, il y avait quand même des ouvriers qui n'étaient pas si maltraités que ça. Je vais retourner chez mon père et je lui demanderai d'être traité comme un ouvrier. Donc il revient et là, son père l'attend depuis toujours. Lui ouvre les bras, l'embrasse, lui revêt un habit blanc, lui met des chaussures aux pieds, une bague au doigt et il fait la fête avec toute sa maison. Il tue le veau gras pour faire une belle fête. Parce que ce fils était perdu, il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Donc c'est vraiment à la fois toute la miséricorde d'un père. Et pour Saint Luc qui raconte cette parabole de Jésus, ça veut dire l'amour de Dieu aussi, qui se penche sur l'humanité, qui a pris son chemin loin de Dieu. Aujourd'hui, c'est tellement frappant de voir dans nos pays, la France, le nombre de gens qui ont exclu Dieu de leur vie, qui ont pris un chemin loin de Dieu. Peut-être pas pour tout dépenser bêtement, mais parce qu'ils se disent je vis très bien sans Dieu. Mais moi, je pense que sans Dieu, on finit par retrouver la loi du plus fort, qui est forcément une loi qui opprimera les faibles.
Dont on a parlé juste à l'instant, d'ailleurs.
Exactement. Et puis, y a la figure du fils qui a le courage de revenir vers un père qui peut-être lui faisait peur au départ. Peut-être n'avait-il pas compris l'amour de son père. Il avait demandé un héritage, comme on dit au fond, t'es mort pour moi, donc je veux l'héritage. Et qui revient vers ce père, et qui trouve un père qui a des bras ouverts pour l'accueillir, et qui a un cœur incroyablement ouvert pour lui donner ce pardon. Et il le fait en le réinsérant dans la vie de la famille, notamment avec cette bague au doigt qui signifie l'alliance. Voilà, tu es mon fils et je t'accueille. Je pense que chacun de nous aussi peut faire l'expérience de cela en revenant vers Dieu, en demandant pardon pour son péché. Alors on peut le faire comme catholique dans la confession sacramentelle, on peut le faire en se mettant déjà devant Dieu dans une chapelle chez soi et dire « Seigneur, voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». C'est la formule de cet homme de la parabole. « Pardonne-moi ». et je reviens vers toi. Et on peut expérimenter alors un pardon de Dieu au-delà, bien sûr, plus grand que tout le mal qu'on a pu faire. Il n'y a pas de mal trop grand que Dieu ne puisse pas pardonner à celui qui vient demander pardon.
Ce qui est très, très émouvant dans cette parabole, c'est que finalement, le fils fait quelques pas, il a fait quelques pas, et il voit au loin son père qui s'avance.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'humilité de Dieu et sa bonté sont...
Il y a cette peinture de Rembrandt qui est à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, à ce magnifique musée de l'Ermitage, où Rembrandt a peint un père qui est vieux et dont les yeux sont comme rendus aveugles, fermés, tellement on imagine qu'il a pleuré l'absence de son fils. Il a pleuré ce fils, il en est devenu presque aveugle, les yeux rougis par la douleur d'avoir perdu un fils, et qui l'accueille sur son sein, qui le presse comme s'il voulait le réenfanter à nouveau.
Et puis il y a le frère du fils prodigue qui lui dit qu'est-ce qui se passe là ?
Le frère aîné se fâche parce qu'il n'a pas compris. Il ne comprend pas que son père fasse la fête et tue un veau gras pour un frère cadet qui n'est plus son frère au fond, hein, qui le considère comme un vaurien. Et ce fils aîné, c'est un peu cette figure du pharisien, de celui qui croit qu'il a toujours bien fait, mais qui ne comprend pas non plus l'amour du père. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi déjà, pourquoi tu te plains ? Pourquoi ? Au contraire, il fallait nous réjouir ensemble parce que ton frère est revenu. Et le fils aîné ne comprend pas cet amour, il ne comprend pas ce surcroît d'amour. On peut aussi, nous aussi parfois, quand on voit quelqu'un qui revient, dit, mais alors lui, on va le féliciter, on l'accueille, alors qu'il a fait presque des crimes, et on voudrait lui... Vous savez, c'est pas simple, hein. Y a des gens qui font des choses très, très, très graves, et quand on les réintègre, certains ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'il faudrait qu'ils payent toute leur vie.
Ouais.
La miséricorde de Dieu, c'est aussi ça, c'est réaccueillir.
Tour à tour, on peut être le fils prodigue et puis le frère du fils prodigue.
En fait, on est souvent un peu les deux, je pense, oui.
Pour terminer, il nous reste vraiment une petite minute. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous livrer aujourd'hui, par une chose qui vous a marqué dans l'actualité, ou pourquoi pas une émission de télévision, un livre ?
Alors, une anecdote, en fait, je reviens de 4 jours de visite pastorale à Nogent-le-Rotrou, et j'étais voir l'entreprise Valégrin, 200 salariés qui font de la découpe de viande, en fait, de viande de porc. Donc, j'étais accueilli dans cette usine très bien, avec le curé Yannick Coat. Impressionnant de voir ces hommes, ces femmes qui travaillent physiquement beaucoup, parce qu'ils ont cette viande qui arrive dans des espaces très aseptisés, très, très propres, mais à 4 degrés. Donc, il faut couper au couteau... ces quartiers de viande, ils en découpent les morceaux. Bon, la viande, il faut l'aimer, hein. C'est pas très vegan, mais une belle entreprise qui nous fournit ensuite ce que nous mangeons de temps en temps. Donc j'étais heureux de voir ça, de voir un peu les conditions de travail, les conditions de vie de ces gens, ces hommes, ces femmes, à nos gens, le retrouvent.
Merci beaucoup, Monseigneur. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos. D'ici là, restez fidèles à l'écoute de nos programmes. Radio Grand Ciel, c'est Ne l'oubliez pas, la radio qui rapproche les hommes.
Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons, voici notre foi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons, voici notre foi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons, voici notre foi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons, voici notre foi. Voici notre foi.